Pour beaucoup, ça a été une année blanche, parce que tout s'est arrêté. Une année blanche, vous savez, c'est-à-dire une année pour rien. Sauf qu'avant, une année blanche, c'était une année qu'on s'accordait quand on en avait les moyens. Là, elle s'est imposée sans qu'on lui demande rien. Tu parles d'une année blanche 2020. C'est une année qui nous en a fait voir de toutes les couleurs et pas la vie en rose. Une année dans le rouge, avec son lot d'alertes sanitaires et environnementales, de crises, de confinements, de couvre-feux, de contestations. Une année de peur bleue, mais aussi verte de rage. Une année de couleurs, Black Lives Matter, de gilets jaunes, de révolution verte. Et comme au Moyen-Âge, vous avez remarqué, il y a des couleurs acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Des couleurs honnêtes et d'autres malhonnêtes. Tu parles d'une page blanche pour 2021. Moi, je suis pas là pour vous annoncer la couleur, mais quand vous, hier, quand j'ai vu à la télé ces images du Capitole envahies par une foule bigarrée, drapeaux rouges, t-shirts colorés, je me suis dit quand même, ça promet. Quelles seront les couleurs de l'année qui s'annonce ?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité, lui aussi, cette année, on a vu de toutes les couleurs. Le 13 décembre dernier, à l'issue d'une représentation à huis clos de la Bayadère, à l'Opéra Bastille, il a été nommé danseur étoile. À l'heure où l'opéra broie du noir, il est venu insuffler ce matin un petit peu d'espoir. Bonjour Paul Marc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce matin, tout d'abord, quelles devraient être pour vous les couleurs de l'année qui s'annonce, l'année qui vient ?
Des couleurs d'espoir, j'espère. des couleurs lumineuses. J'espère qu'on sortira bientôt de cette crise sanitaire et qu'on pourra retrouver un semblant de normalité.
L'année dernière, ça a été une année noire pour vous ?
Pas complètement. J'essaie d'être le plus positif possible, donc j'essaie de retirer les aspects positifs, même si c'est assez difficile dans cette période.
Mais il y a quand même eu cette apothéose, Paul Marc, il y a un peu moins d'un mois, vous avez fini l'année en idole dorée, c'est le rôle que vous interprétiez dans la Bayadère.
Oui.
Et là, vous ne vous y attendiez pas. Étoile non. De l'Opéra de Paris, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé beaucoup de choses. ça a été une grande surprise, un choc et le début d'un rêve.
Mais vous étiez idole dorée, vous auriez pu vous en douter quand même. Non ?
Mais justement non, l'idole dorée n'est pas le rôle principal du ballet. Et on va dire que traditionnellement, un danseur ou une danseuse est nommé étoile sur le rôle principal du ballet. Donc justement, encore plus surpris de cette nomination sur un rôle secondaire.
Nomination particulière, la représentation s'est jouée devant une salle vide, mais elle a été visionnée en ligne par plus de 10 000 spectateurs, l'équivalent d'un stade. Ça, c'est quand même impressionnant.
C'est assez impressionnant, c'est assez déroutant pour nous, c'est pas une activité traditionnelle, c'est pas ce dont on a l'habitude, mais on était très contents et très fiers d'un côté aussi que le lancement de cette plateforme fonctionne à ce point.
Mais l'absence de spectateurs, on la sent, corps du spectateur en fait.
On la sent, vous savez, quand quelqu'un vous fixe dans la rue, ou quand on le sent. On le sent quand il y a des gens qui nous regardent. C'est pareil sur scène. On a beau ne pas voir les spectateurs, on a des projecteurs en contre-jour, la salle est plongée dans le noir. Donc on ne voit pas les gens, mais on les sent. On sent leur énergie, on sent leur approbation, au contraire, leur désapprobation.
On sent leur souffle aussi.
On sent leur souffle, on les entend, on entend les bruits. Donc c'est assez déroutant d'avoir un spectacle, mais de ne pas avoir de public.
Et ça nourrit le danseur que vous êtes ?
Oui.
Précisément le corps du spectateur, c'est-à-dire que vous l'entendez, oui. Vous jouez avec.
Oui, c'est tout l'intérêt aussi de notre métier, du spectacle vivant de manière générale. Par exemple, j'aurais préféré être comédien qu'acteur. Le spectacle vivant est vraiment quelque chose qui me plaît, et le spectacle vivant, ça passe par le fait de danser devant un public en présentiel. La période actuelle fait qu'il faut bien sûr s'adapter.
Mais à vous entendre, ça fait quand même de votre métier un non-sens, du coup, quand il n'y a pas de public.
C'est pas complètement un non-sens, mais en tout cas, ça, effectivement, ça perd de sa saveur.
À quoi vous pensez quand vous dansez, Paul Marc ?
Bon, ça dépend énormément. Généralement, j'essaie d'oublier la technique. Ça, c'est quelque chose. On a les répétitions pour former sa technique, pour la mettre dans notre corps et ne plus avoir à y penser et penser juste à nos émotions, à ce qu'on vit sur le moment. Voilà, être concentré sur autre chose, sur les autres danseurs, sur nous-mêmes.
Vous savez quoi, j'ai envie qu'on entre un petit peu dans votre tête, là, dans vos pas. Vous avez choisi pour ouvrir ce boomerang de danse, de danser pour nous la variation de Basile dans le Don Quichotte de Nourieff sur une musique de Léon Mincus, acte 3, troisième tableau. On y va ?
C'est parti. On commence par un piqué arabesque. On a un chassé, un double saut de basque, un petit sous-sous et un grand développé à la seconde. À nouveau un chassé, une double cabriole et on se prépare pour recommencer. Un chassé, un double saut de basque, un petit détourné, un grand port de bras et on court toute la scène pour aller se placer dans la diagonale. Là, c'est la partie des pirouettes. On a un double rond de jambes, tombé pas de bourré, pirouette, un grand fouetté et on ramène au jarret. Et on recommence double rond de jambes, pas de bourré, pirouette au genou, fouetter attitude et ramener jarret genou. Une troisième fois double rond de jambes, tomber pas de bourré. Cette fois uniquement des pirouettes où je me mets plein. On finit quatrième, un grand port de bras et on court pour se placer au centre de la scène. C'est la dernière partie. On a un double tour en l'air au genou, fini arabesque à gauche, un posé piqué double et on finit cinquième. On le refait à droite, double tour en l'air, fini arabesque, posé piqué double, un cinquième. Une troisième fois à gauche encore, le posé piqué double, fini cinquième. Et la quatrième fois, un double tour en l'air, fini arabesque, posé piqué double. Mais on enchaîne avec un double tour en l'air, fini à genoux.
Wow ! Paul Marc, c'est en vous rendre la précision. Ne me dites pas que vous oubliez la technique, parce que là, on l'avait, la technique, très très précisément. Qu'est-ce qui fait la difficulté de cette variation de Basile ?
Alors, déjà, cette variation, elle arrive au troisième acte, à la fin du troisième acte. Donc, on a déjà deux heures et demie de ballet dans les pattes. Et c'est un moment qui est très technique, qui est très court, mais elle est elle tabasse, on va dire, cette variation.
Ça veut dire, vous êtes dans quel état physiquement après 3 heures ?
On est alors très conscient de tout ce qu'on fait, on est vraiment entré dans le ballet pour le coup, ce qui peut être parfois un peu plus difficile au début d'un ballet, le temps de rentrer vraiment dans le personnage, d'oublier le stress, de gérer son adrénaline. Là, on est vraiment bien installé dans l'histoire, c'est la fin de l'histoire et c'est le dénouement, mais c'est un moment purement technique. L'histoire n'avance pas pendant tout le pas 2 et pendant cette variation, et c'est vraiment le gros moment technique du ballet. Donc il y a quand même beaucoup
de pression,
une petite appréhension, d'autant plus que c'était mon premier grand ballet classique quand je l'ai dansé, et mon premier trois actes, et ça fait peur.
Il se trouve que ce rôle de Basile dans Don Quichotte, Paul Marc, effectivement, c'était l'un de vos premiers grands rôles, c'était il y a 4 ans, vous aviez seulement 19 ans, vous n'étiez alors que sujet. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, vous le danseriez différemment ?
Oui, bien sûr.
En quoi ?
Bien sûr, le grade ou l'âge n'ont pas forcément d'incidence, mais quand on aborde un ballet pour la première fois, on va le danser d'une certaine manière. Le fait de réaborder un ballet plus tard, même si c'est 6 mois après, on le fait différemment. On connaît déjà le ballet, on l'a déjà travaillé. Il y a beaucoup de choses finalement, même 3 ans après, dont on se souvient.
Vous vous souvenez de tout, ouais.
Pas de tout, mais de beaucoup de choses en tout cas, oui.
Quel danseur vous étiez à l'époque, il y a 4 ans ?
J'étais très jeune, très inexpérimenté. C'était mon premier grand ballet classique, c'était mon premier Nourrieff, c'était mon premier trois actes, donc vraiment un début, une première fois. Et surtout, voilà, j'avais 19 ans, ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans la compagnie, donc vraiment inexpérimenté, et d'autant plus sur des longs ballets où il faut tenir pendant 2 heures et demie.
C'est intéressant quand même que vous parliez du temps comme cela.
Oui.
Paul, la carrière d'un danseur, elle reste quand même assez courte, dans moins de 20 ans, vous serez forcé de prendre votre retraite.
Oui.
Le temps pour un danseur, qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente beaucoup de choses. On a effectivement une carrière qui est assez courte, malgré tout, ça reste une carrière longue pour des sportifs. C'est-à-dire qu'il faut tenir, pour ma part, les 25 ans de carrière. Le temps, après, on essaie de jouer avec du mieux qu'on peut, mais peut être un ami comme un ennemi, en fait. Le fait d'avancer en âge fait qu'on a de plus en plus d'expérience, qu'on a de plus en plus de métiers, donc on a de plus en plus de petites choses, de petits trucs et astuces, par exemple. Mais quand on est jeune, plus on est jeune, et plus on est inexpérimenté, forcément, et plus on a d'énergie, une bonne santé, un corps qui marche à 100%. Donc c'est assez particulier, oui.
Celle à qui on donne le temps dans cette émission, vous la connaissez, Paul, c'est la culture. Et son actualité, qui pourtant n'y passera jamais, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 7 janvier ?
on prend les mêmes et on recommence après le 9 décembre, puis le 16 décembre. On y a cru et on a été déçus. Les lieux culturels ne rouvriront pas aujourd'hui, jeudi 7 janvier. Cette fois, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ne fait même plus semblant. Nous n'avons pas de visibilité, a-t-elle déclaré, parlant plus tard d'un calendrier glissant et de la possibilité de réouverture échelonnée. Seule certitude, alors qu'il est, la ministre doit recevoir les représentants du monde de la culture demain. Mais pour leur dire quoi? Prochain point d'étape, le 15 janvier.
France Inter présente
le prix BD Fnac France Inter 2021.
Cheval, pas, blanc, whiz.
Des bulles qui font pop, 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 blob et whiz. Le prix BD Fnac France Inter 2021, présidé par l'ami Antoine Decaune, a été remis hier au bédéiste Mathieu Bablet pour l'album Carbone et Silicium, paru en août chez Ankama. Chronique cyberpunk d'un monde où la population vieillissante a créé des robots pour prendre soin d'elle. L'ouvrage met en scène deux humanoïdes qui s'affranchissent de l'emprise de leur créateur pour explorer un monde en prise au désastre écologique, politique et économique. Bravo Bablet.
What about Mr. Bean now? Have you drawn a line under him? No more Mr. Bean?
I doubt that he will reappear, but you never know, you must never...
Has Been, alors que l'on s'apprête à célébrer les 30 ans du célèbre et loufoque Mr. Bean, son interprète, l'acteur Rowan Atkinson, a annoncé qu'il n'incarnera plus à l'écran le personnage en costume tweed et cravate rouge. Le comédien juge désormais ce rôle trop épuisant et stressant. Alors pour se consoler, on pourra néanmoins se brancher sur la télé anglaise qui diffusera dimanche le documentaire anniversaire Happy Birthday Mr. Bean, retraçant l'incroyable saga du clown So British.
Nous, on est prêts à montrer l'exemple pour sortir de ce marécage dans lequel on est. C'est aussi une espèce de ras-le-bol. Hein.
Un pour tous et tous pour un.
Enfin, un pour tous et tous vaccins. Dans un texte relayé aujourd'hui par Le Parisien, 200 personnalités de la culture mobilisées à l'initiative du metteur en scène Stanislas Nordet s'engagent à se faire vacciner contre le coronavirus pour montrer l'exemple. À ce rythme-là, on y va, on va rester fermé pendant un an encore, disent-ils. Cette pétition, c'est une manière d'agir pour sortir de l'impasse. Et parmi les signataires, on trouve Daniel Auteuil, Grand Corps Malade, Zabou Bretman ou encore Fabrice Luchini. Et le jeune danseur étoile Paul Marc, invité de Boomerang ce matin pour revenir sur un parcours, une ascension assez spectaculaire quand même, mais qui est l'aboutissement de 20 ans de travail. Qu'est-ce qui, petit, vous a attiré vers la danse? Vous vous souvenez?
Non, j'en ai aucun souvenir. J'étais très très petit, j'avais 3 ans quand j'ai un peu découvert la danse par ma sœur en fait qui en faisait, qui a un an de plus que moi et qui voilà prenait des cours de danse.
Et votre sœur elle a continué?
Elle a continué avec moi pendant quelques années, elle s'est arrêtée au moment où je suis rentré à l'école de danse de l'Opéra. Ouais.
Vos premiers cours, vous vous en souvenez?
J'ai quelques images, mais très peu. Non, j'avais 4 ans, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, non.
Une petite quand même, non? Non, même un petit.
Une petite, je me souviens de la première fois que je suis rentré dans le studio. J'ai l'image de ma première découverte du studio on stage où j'ai commencé la danse.
Ouais. Les bars en bois, le parquet.
Les bars en bois, il y avait un genre de bar qui donnait derrière, en fait, sur la salle, sur cette salle qui me paraissait immense quand j'étais petit.
Bah, c'est ça.
Et je la garderai très longtemps en mémoire, cette image.
Vous aviez 3 ans. À quel moment est-ce que vous avez commencé à comprendre que la danse, c'était plus qu'une activité extrascolaire, c'était plus qu'un hobby, c'était autre chose?
Je sais pas si je l'ai réellement compris à un moment, c'est arrivé doucement. De toute façon, en fait, je ne dansais pas que dans les cours de danse, je dansais partout,
c'est vrai.
Dans ma chambre, dans le salon, dans la cour de récré, dans la rue, tout le temps.
Et vous dansiez sur quoi? Sur de la musique ou même pas?
Ah, sur de la musique, quand il y en avait, quand il n'y en avait pas, je dansais sans musique, tout le temps. Toutes les circonstances étaient bonnes pour danser.
Je suppose que d'un point de vue physique ou morphologique, Paul Marc, on a des atouts, on a des prédispositions?
Oui, on peut avoir effectivement des prédispositions, et notamment l'école française et donc l'école de danse de l'Opéra de Paris recherche effectivement des physiques qui sont un peu propres à l'école française.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire un port de tête, un grand cou pour avoir les épaules dégagées et la tête dégagée, des jambes assez longues, les jambes d'ailleurs très légèrement X, mais pas trop parce que ça peut être contraignant aussi, une forme du pied qu'on appelle le coup de pied, une cambrure du pied assez spécifique, des grands bras, et généralement des physiques assez longilignes, assez fins.
Ça change, ça, aujourd'hui. Le recrutement, il ne se fait plus exactement de la même façon, et c'est tant mieux, d'ailleurs.
Ça change. On a des physiques qui sont plus atypiques, effectivement, dans les compagnies du monde entier, de manière générale. L'école française de danse garde tout de même une certaine esthétique qu'on peut qualifier assez de prince, en fait. L'image un peu qu'on se fait d'un prince. Les écoles américaines, par exemple, elles, justement, ont des physique beaucoup plus atypique, beaucoup plus musculaire.
Vous aviez des points faibles ?
Bien sûr, on a tous des points faibles.
Alors vous, c'était quoi ?
Mes points faibles, ça peut être... alors par exemple, le travail. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre...
Le travail.
Pas dans le même sens, dans le sens où depuis que je suis tout petit, depuis mes premiers bulletins à l'école de danse, on me dit que je ne travaille pas. On me l'a répété aussi en tant que professionnel.
Moi j'ai eu les mêmes. Dissipé.
Absolument pas dissipé.
Ah bon,
j'étais très bon élève, j'étais très ordonné, très consciencieux, mais on me disait que je ne travaillais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre ça, et donc ça a été un grand défaut pendant longtemps.
C'est une vraie question et c'est passionnant. Ça veut dire quoi travailler, justement ?
Justement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que on me disait que je ne travaillais pas, surtout mes bulletins scolaires. Quand j'étais dans le corps de ballet, on me le disait, tu ne travailles pas assez. Et j'ai mis longtemps à comprendre en fait que la danse est censée être facile. Enfin, la danse, on est censé montrer que c'est facile, même si en réalité ça ne l'est pas du tout. Et j'ai la chance d'avoir des prédispositions physiques qui font que je peux montrer des choses assez facilement, alors qu'intérieurement, en fait, ce n'est pas du tout facile et je suis en train de souffrir. Mais je ne montrais pas assez que, justement, j'étais en tension, que j'étais en train de travailler. Et donc, comme ça me paraissait très facile, on me disait que je ne travaillais pas alors que je travaillais. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que, du coup, on me disait que je ne travaillais pas, donc je travaillais deux fois plus. Mais on me disait que je travaillais toujours pas assez, donc je travaillais encore plus et encore plus. Jusqu'au moment, en fait, où j'ai compris que c'était pas tellement la quantité de travail, mais la façon dont je travaillais qu'il fallait que je change. Ça, ça a été un grand défaut pendant pas mal de temps.
Paul Marc, à la suite du concours d'entrée du corps de ballet, que vous avez réussi du premier coup, vous avez quitté votre sud-ouest natal, vous êtes installé à Paris, vous aviez 10 ans, s'éloigner de sa famille, si loin, aller si loin en fait, quand on est si petit.
Ça a été un déchirement. J'avais jamais été séparé de ma famille, pas plus qu'un soir où on avait une babysitter et quand on se réveillait le lendemain matin, papa et maman étaient là. Donc ça a été vraiment un déchirement. C'est des conditions aussi un peu particulières parce qu'on est à l'internat.
Qu'est-ce qui vous a fait tenir ?
La danse. La danse, tout simplement. J'aimais ce que je faisais, j'aime toujours ce que je fais. Et ça a été très dur, et je pleurais tous les soirs au téléphone, avec mes parents au téléphone. Et tous les dimanches soirs, parce que je rentrais tous les week-ends, du coup. Et tous les dimanches soirs, mes parents me disaient « Mais tu n'es pas obligé de repartir si tu n'as pas envie, si c'est trop dur, tu peux rester à la maison. » Je leur disais « Non, je repars. » Donc j'étais triste, c'était un déchirement, mais en même temps, c'était hors de question de revenir à la maison.
C'est à l'école du corps de ballet que vous avez rencontré un professeur qui a changé votre vie, Gilles Ezoart, qui aujourd'hui encore continue de vous épauler, de vous suivre. Pour vous, c'est quoi un bon professeur de danse ?
Un bon professeur, c'est quelqu'un qui nous correspond. La danse, c'est assez spécifique et on a beaucoup de manières d'apprendre la danse. Il faut juste trouver la personne qui nous correspond et à qui on correspond.
C'est à lui que vous avez fait appel hein, quand vous avez été nommé premier danseur en 2018. Vous vouliez, paraît-il, techniquement tout reprendre à zéro.
Oui, alors en fait, Gilles Ezoart me suit depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc depuis l'école de danse, et c'est avec lui que j'ai travaillé tous mes concours, que j'ai travaillé beaucoup de ballet. Et en fait, quand on arrive premier danseur, on n'a plus de concours, puisque ces concours servent à monter en grade, et pour devenir danseur étoile, il n'y a pas de concours. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, je suis arrivé premier danseur, je suis soliste, maintenant j'ai tout reprendre de zéro.
Parce que vous aviez pris des mauvaises habitudes aussi.
On prend des mauvaises habitudes, on a toujours des petits défauts, et je me suis dit, là, c'est le moment de les corriger.
Lesquels, par exemple, pour vous ?
De tout. Depuis le premier exercice face à la barre, donc le plus basique du basique, jusqu'à la très grande technique virtuose.
Du saut,
des grandes pirouettes. On peut toujours, de toute façon, même si notre mouvement est juste, correct, on peut toujours trouver quelque chose en plus, un demi-centimètre de hauteur en plus, une pirouette en plus.
Et ce réapprentissage de zéro, il est passé par quoi ? Par quel type d'exercice ? Par quel type d'entraînement ?
Alors, il est passé par des cours de danse assez standards, on va dire, que Gilles me faisait sur mesure. Sauf que ces cours duraient très 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 longtemps, puisqu'on prenait beaucoup de temps. Et justement, c'est ça qui a été très agréable, très dur, mais très agréable, de prendre beaucoup de temps.
Parce qu'on redécouvre son corps, en fait.
On redécouvre son corps, qu'on connaît quand même déjà assez bien, et on le façonne encore un peu plus.
Il faut le comprendre, son corps.
Et il faut le comprendre, c'est très très important. Et je pense qu'on ne peut pas être sportif, et encore moins danseur, si on ne comprend pas son corps.
Allez, j'aimerais que vous donniez corps, encore, Paul Marc, au sentiment, à l'émotion, au geste d'un personnage. Cette fois-ci, c'est l'amoureux Lenski dans Onegin, chorégraphié par le Sud-Africain John Cranko sur une musique de Tchaïkovski. Acte 2, deuxième tableau, c'est à vous.
Alors, ce passage, c'est un moment où Lenski est vraiment désespéré. Il est triste, il s'apprête à rentrer en duel avec son ami, Onegin. Et donc, à ce moment-là, il arrive sur scène. On a une grande cape. La scène est assez plongée dans le noir. Et d'un coup, on voit la lune au loin. Donc, on marche vers elle. On l'implore un peu. Et on ouvre notre cape. On s'en débarrasse. On la laisse glisser au sol. On est dos au public, donc on se retourne lentement. Très lentement. On n'a pas lourd. On est désespéré. Et on commence la variation sur un pic arabesque. Et on tombe en avant. On est désespéré. On se retourne et on implore le ciel. Et il y a une deuxième fois en changeant de côté. On se relève et on recommence un deuxième pic arabesque. Et à nouveau, on tombe de désespoir. On se relève, on tourne. Et une deuxième fois, on implore le ciel. Cette fois, on va retourner. On fait des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes. On plie et on implore le ciel. Et une deuxième fois, des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes, mais cette fois on finit en arabesque et on tient la position, on la tient, on la tient. On part en déboulé, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on fait un posé piqué double et un grand développé à la seconde en rond de jambe. Et à nouveau des déboulés, des déboulés, des déboulés, un posé piqué double et on finit en quatrième. Et on a un port de bras lent et on repart. Une glissade, une grande cabriole, on passe son bras devant en implorant le ciel. À nouveau, on s'en va en arrière, une grande cabriole en arabesque, et à nouveau ce grand port de bras. Et une deuxième fois, une cabriole en avant, et on recule, et on ne sait plus quoi faire. On est désespéré. On entend un bruit, on voit quelque chose, on repart avec un chassé en tournant, un deuxième, on pose, on fait deux tours à la seconde, on saute pour changer en arabesque, on fait trois petits sauts, un fouetté, des tours, et on finit dans une grande arabesque cambrée. Et on recommence de dos, un chassé, un deuxième. Deux tours à la seconde, on saute, des sauts arabesques, un fouetté et à nouveau un grand cambré arabesque.
C'est bouleversant parce que vous dansez en fait.
Oui.
Je le vois avec vos mains là.
Oui, oui, on est toujours en train de marquer les variations quand on se les remémore.
Paul Marc, étoile de l'Opéra de Paris, parfait dans le rôle de l'amoureux transi, le lover, tutti quanti. Il y a quelque chose en lui d'un Denis Lamalisse quand même, je trouve. C'est le farceur du dimanche, vous savez. Il a l'air juvénile, le cheveu noir, le regard doux rêveur, la jambe leste. Avec lui, on n'est jamais à l'abri d'un entrechat, d'une cabriole, d'un fouetté ou même d'un grand jeté. Avec son sweatshirt, ce matin, le danseur étoile, donc Paul Marc, invité de Boomerang. J'aimerais qu'on revienne quand même sur cette variation que vous venez de nous présenter, variation dite lente. Dans quelle mesure est-ce que plus c'est lent, plus c'est difficile, Paul?
Alors, déjà, le terme variation lente, elle désigne des variations qui sont plus sur le sol. On a moins de sauts. La musique, généralement, est lente, alors qu'en réalité, quand on la danse, ce n'est pas du tout lent.
Ah, c'est vrai?
Non, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais on doit donner l'impression que c'est lent.
Donc on triche?
On triche. On doit donner l'impression que c'est lent, mais les variations lentes, en réalité, pour le danseur, ne sont jamais lentes.
Quand on est fatigué, il faut quand même faire semblant aussi que les mouvements sont propres, les mouvements sont nets,
oui.
Quand parfois ils ne le sont pas totalement. On peut tricher en se présentant un petit peu différemment au public ou pas?
Oui, bien sûr, on a des petits trucs et astuces. Et de toute façon, la danse et le ballet, c'est du spectacle vivant. Donc de toute façon, on aura des pirouettes qui se passeront très bien à un premier spectacle et qui rateront complètement le spectacle suivant. Donc on doit se rattraper, on doit trouver des choses sur le moment, sur l'instinct, pour masquer le fait que le pas est raté, faire comme si tout était normal, que tout était fait sur mesure.
Vous êtes du genre à masquer beaucoup, vous ?
On masque du mieux qu'on peut. Après, le mieux, c'est quand même de réussir à avoir la technique, la propreté, pour justement ne pas avoir à masquer.
Incarner un personnage, Paul Marc, ça oui. Passe par quoi, pour vous?
Ça passe par beaucoup d'étapes. Déjà, ça passe par de la recherche. Par exemple, pour Lenski, tout simplement, par exemple, commencer par lire le livre de Pouchkine, Eugène Onegin, se renseigner sur l'histoire, le contexte de création, sur le caractère du personnage.
Mais alors, précisément, pour nous donner un exemple, en quoi oui. Est-ce que votre recherche vous a permis une interprétation différente?
Alors, différente, je ne sais pas. Après, j'ai fait des recherches donc sur le caractère du personnage, sur ce qu'il ressent, sur exactement les actions, ce qu'il pousse à lui faire ci, à faire ça, tout ça. Après, forcément, chaque personne va interpréter un personnage différemment. Et on ajoute en fait notre petite patte personnelle. souvent techniquement parce que chacun a un corps différent, a une technique différente, et tout simplement parce qu'on a aussi une approche du personnage qui est différente. On ne ressent pas tous exactement la même chose, donc notre personnage va rester assez similaire, mais va avoir notre touche personnelle.
Et c'est là où se joue l'art, justement.
C'est là où se joue l'art, c'est vraiment l'interprétation de chacun, et c'est ce côté un peu acteur et comédien, en fait, aussi, de la danse.
Pour autant, parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine quand je vais voir un ballet, quand est-ce que vous avez compris qu'il suffisait d'un mouvement pour raconter une histoire?
Ça, on le comprend à partir du moment, en fait, on ressent des émotions en dansant et qu'on essaie du mieux qu'on peut de les faire transparaître et de les transmettre au public.
Parce que c'est un langage, en fait. C'est une syntaxe.
Oui.
C'est-à-dire qu'un jeté ou un piqué, ça raconte aussi quelque chose, un moment de l'histoire.
Alors, un jeté ou un piqué peuvent être des moments purement techniques. C'est à nous, justement, après, en tant qu'interprète, d'ajouter une signification à ces pas.
Par exemple,
un grand jeté qui va être dans Don Quichotte, qui est un ballet, par exemple, dans le troisième acte, on en a des grands jetés. Un grand jeté va être très virtuose, va être très éclatant dans un Don Quichotte. Alors que, justement, un Lenski, qui est très jeune, qui est beaucoup plus fleur bleue, on va pas le faire de la même manière.
Ouais.
On va pas l'interpréter aussi brillamment que sur Don Quichotte. On va le faire beaucoup plus en douceur. On va avoir un mouvement beaucoup plus doux. Même si les jambes font à peu près le même mouvement, on va pas forcément avoir le même port de bras, le même port de tête, la même intention dans le grand jeté.
On apporte aussi, Paul Marc, quelque chose de personnel, quelque chose d'intime en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous dites de vous?
Qu'est-ce que je dis de moi? C'est-à-dire?
Dans une chorégraphie. Qu'est-ce que vous révélez de vous?
Je sais pas si je révèle beaucoup de choses de moi, personnellement, puisque j'essaie au maximum d'interpréter le personnage.
Vous ressentez ce qu'il ressent?
Du mieux que je peux. Du mieux que je peux, et généralement, on se rend compte à la fin du ballet, au moment où on sort du personnage, si on a réussi vraiment à rentrer dans sa peau ou pas. Ce qu'on révèle sur scène, je pense, c'est beaucoup sa sensibilité. À quel point on est sensible, et qui ne sera pas la même à chaque fois. On peut être très sensible à Lenski, comme on peut être beaucoup moins sensible à Don Quichotte pour la même personne. Donc c'est très différent aussi en fonction des ballets, en fonction de ce qu'on aime danser, de ce qu'on n'aime pas danser.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez les autres danser, Paul?
Quand je regarde les autres danser, ça dépend aussi de beaucoup de personnes.
Un danseur comme Nourieff, par exemple.
Un danseur comme Nourieff, c'est quelqu'un que je regrette de n'avoir jamais vu en vrai.
C'est-à-dire que vous l'avez vu derrière votre écran?
Je l'ai vu derrière mon écran et il y a des très belles vidéos de lui, il y a des très belles vidéos de ses interprétations.
Vous avez appris, vous avez compris certaines choses en le regardant danser?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il a créé énormément de ballets qu'on a au répertoire de l'Opéra de Paris. Et justement, c'est très, très, très inspirant de regarder le créateur de ces ballets les interpréter lui-même. C'est l'essence même, en fait, du ballet et de ce qu'il a voulu créer, de ce qu'il a voulu dire.
Le Lac des Cygnes, chorégraphié par Nourieff, il paraît que c'est votre ballet préféré.
Oui, c'est un grand coup de cœur, le Lac des Cygnes, oui. J'ai beaucoup de ballets que j'aime énormément, mais le Lac des Cygnes est un des ballets que je préfère.
Vous le voyez, lui, quand vous y pensez?
Pas nécessairement lui. Pas nécessairement lui, puisqu'il avait quand même cette capacité justement à interpréter des personnages extrêmement différents. Donc je vois vraiment Siegfried, le personnage principal, le rôle du prince.
Et dites-moi, vous n'avez pas peur qu'il disparaisse, le Lac des Cygnes? Parce qu'il paraît que ça inquiète tout le monde, là.
Non, aucun risque que le Lac des Cygnes disparaisse.
Bon, bah vous nous rassurez, c'est bien d'avoir quelqu'un de l'Opéra de Paris qui nous le dise. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois, le Lac des Cygnes?
Le Lac des Cygnes, je l'ai vu pour la première fois à l'Opéra de Paris. Je l'ai vu à l'Opéra de Paris quand j'étais à l'école de danse, en vrai, je veux dire, dans la salle, en présentiel.
Vous avez encore des images qui sont restées gravées?
Oui, je crois que j'ai des images. J'ai des images du Lac des Cygnes, oui. Oui, oui.
Okay.
J'étais tombé amoureux de ce ballet. J'ai des images du pas de deux, du deuxième acte, surtout. C'est un moment que j'adore. Ce pas de deux du deuxième acte, il est long, il est dur, mais il est tellement touchant. Il est tellement incroyable, autant à regarder qu'à danser, que c'est un moment de bonheur autant pour le corps quand on le fait que pour les yeux quand on le regarde.
Alors c'est par ce tableau du Lac des Cygnes que j'aimerais qu'on conclue ce boomerang de rentrée avec le pas de deux de l'acte 2. Qui sera votre Odette, Paul Marc, si vous êtes Siegfried?
Alors je n'ai fait le Lac des Cygnes qu'une seule fois et je l'ai dansé avec Myriam Oulbra, mais c'était incroyable de danser avec elle.
Alors on l'imagine et on y va.
Alors on arrive à la fin du pas de deux, et elle passe sous mon bras, et je lui prends ses ailes en pique arabesque, je les ramène devant, et je les réouvre. Je tourne autour d'elle en promenade, et je la pose tout doucement contre moi. Je lâche un bras, je prends son aile, et je la ramène sur elle pour l'enlacer, et la deuxième, très délicatement, très tendrement. Et on s'enlace, doucement. Et elle essaie de s'échapper, en arabesque. Je la retiens, mais je la laisse quand même partir. Alors on recommence de l'autre côté, elle pique, je prends ses bras, je les ramène devant elle. Plus rapidement, elle les réouvre. À nouveau une promenade, et je la pose contre moi, doucement. Je lâche un bras, et je ramène une aile, une deuxième, et je l'enlace. Plus fort cette fois. Et à nouveau, elle essaie de s'échapper. Je la laisse partir. Elle essaie de s'envoler et je la rattrape au dernier moment. Elle fait un piqué et elle plonge en avant. Elle remonte. Elle me regarde. Elle développe en quatrième. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Je l'arrête au public et elle cambre. Et je la ramène face au public. À nouveau, elle s'en va et je la rattrape. Elle replonge en avant. Et cette fois, elle développe dans un grand penché attitude décalée. Elle remonte doucement. Et elle essaie de s'échapper une dernière fois, mais je la retiens par la main. Et je la ramène, je la tire, en piétinée, au milieu de la scène. Et je lui présente ma main. Elle la prend. Et on a une première promenade. Je tourne autour d'elle. Et elle va retirer. Elle développe doucement. Et on a une pirouette planée. Une deuxième promenade, de petits battements. Et elle redéveloppe. Retirer, développer. Cette fois, on a deux pirouettes. Et une troisième fois, elle prend ma main. Je tourne autour d'elle. Elle retire. Elle développe. On a une, deux, trois pirouettes. Elle développe à la seconde. Je lâche ses mains. Elle tombe dans mon bras. Je la remonte doucement. Et elle penche en arabesque. Et j'allonge mon bras avec elle. Et c'est la fin.
C'est fou quand même d'être ému comme ça, juste en reproduisant ce pas de deux. À quoi ça tient, la beauté? Ça sera ma dernière question pour vous, Paul Marc.
La beauté, c'est assez vague, c'est très différent pour chacun. La beauté de ce pas de deux, c'est la tendresse qu'il y a entre les deux personnages. C'est la première fois qu'ils se découvrent, mais ils ont déjà une intimité, une tendresse l'un envers l'autre qu'on doit vraiment retransmettre et qui est vraiment palpable. Et quand on arrive sur scène, qu'on arrive à avoir cette tendresse avec sa partenaire, c'est un moment de pur bonheur.
Alors merci pour la tendresse, on aimerait qu'il y en ait cette année. Merci Paul Marc de nous avoir fait danser ce matin, de nous avoir mis des étoiles aussi plein les yeux. Je rappelle que si tout va bien, l'Opéra devrait ouvrir ses portes le 27 janvier prochain. On croise les doigts, tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia de Villers.
Eh bien, je suis là, Augustin. Je suis là, je vous remercie de tout cœur pour cette pause.
À demain.
Pleine merci de poésie, beaucoup. De douceur, de grâce, parce que nous, on va retomber les doigts dans la prise, dans la déferlante et le saccage de cette nuit aux États-Unis. Salut les amis.
Salut,
et à demain.
Sonia.